Michael Young, bonjour. Donc vous êtes le réalisateur et accessoirement l'un des interprètes de Divorce Club, film qui sort en Belgique le 15 juillet. Alors pourriez parler un petit peu de qui a eu l'idée, parce que vous êtes quand même 5 co-scénaristes, ouais. Notamment avec Matt Alexander, avec qui vous venez encore de retravailler pour le MIA.
Ouais.
Expliquez-nous un petit peu quel a été l'élément déclencheur.
L'élément déclencheur, il est qu'on s'est tous fait un jour larguer, quitter. On a tous souffert par amour et on en vient à avoir des sentiments entre le pathétique et le grotesque. Et j'avais envie de faire un film là-dessus, quoi. J'avais envie de faire un film sur ces hommes qui pleurent à chaudes larmes. Et j'avais envie de moi-même, je vivais un truc un peu particulier dans ma vie personnelle qui n'était pas très agréable. J'avais envie de sortir de tout ça par le haut, par le rire, par le fun, par la régression, j'ai souvent été le copain qui appelait ses potes quand ils venaient de se faire larguer, à leur dire mais t'inquiète pas, tu vas voir, c'est le premier jour du reste de ta vie, on va bien se marrer ensemble, tu vas voir que cette Magali, tu vas l'oublier plus vite qu'elle n'est arrivée. Voilà, j'avais envie de faire un film là-dessus, en fait.
Vous avez fait des études sur la question, vous avez été voir des statistiques
Pas particulièrement, mais en tout cas, j'ai suffisamment bourlingué pour avoir un peu d'expérience dans le domaine. Et puis, voilà, j'ai quand même beaucoup de potes à qui c'est arrivé. Et c'est vrai que le film est rempli de, on va dire, de micro-expériences, de petites anecdotes que j'ai vécues moi ou qui sont arrivées à certains de mes proches. Et qui, voilà, ça s'est immiscé un petit peu partout dans le scénar. C'est une réplique par-ci, c'est une situation par-là, c'est la façon avec laquelle Arnaud se fait humilier au début du film. C'est quand on parle de
forte, quand même.
Ouais, c'est quand on parle de Nelson Mandela. C'est un de mes potes qui me disait que l'homme n'était pas un animal monogame, qu'il y avait que les manchots qui vivaient comme ça. Donc voilà, c'est arrivé un petit peu dans tous les sens, progressivement comme une pieuvre. Les anecdotes et la réalité se sont emparé du scénario.
En parlant de réalité et de Mandela, c'est vrai que vous êtes en pleine actualité, puisque confinement, déconfinement, c'est devenu un sujet vraiment très chaud.
Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes en Belgique. Il paraît qu'à Paris, les divorces ont augmenté de 14% pendant le confinement. Donc, voilà, c'est le bon moment pour aller voir cette comédie au cinéma. Vous allez rire et en plus, ça va vous parler d'un sujet que vous connaissez bien.
Alors on dit que depuis la naissance de votre fils Seven, donc qui a eu 9 ans, vous êtes un peu assagi. Pourtant, quand on regarde, bon, on a vu dimanche à B3 qui en fait reprenait M6 votre Monday Night. Pas vraiment dire là, c'est une soupape quoi.
Je crois pas m'être assagi. Après, j'ai des moments sages, évidemment, j'en avais déjà avant, mais non, je crois que c'est heureusement d'ailleurs que j'ai évolué. Ça va faire 20 piges que je fais ce métier, ça va faire 20 piges que je suis un saltimbanque. Heureusement que je suis pas le même, ce serait triste. Ce qui est bien chez un saltimbanque, c'est de le voir évoluer, progresser, tout en gardant ce qu'on aimait chez lui. Et j'ai l'impression que en tout cas, j'ai pas trop changé à ce niveau-là.
Alors parlons du casting maintenant. Ben, en tant que bon belge, je me vois te parler de Matteo quand même.
Oui, il y a quand même Matteo.
Ah,
oui.
Quoi, vous aviez vu Monquête ou
exactement, je l'ai découvert dans Monquête, le fils et le film de François Damiens. Ouais. Et je l'ai trouvé formidable. Et voilà, j'avais envie de le retrouver. Donc dans mon film, à chaque fois, il prenait le Thalys ou il prenait l'avion. Il venait de Bruxelles. Il a même raté quelques cours à cause de moi. Donc je vous prie de m'excuser, messieurs les professeurs de Matteo. De toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de frontières entre la France et la Belgique pour la comédie. Moi, je viens de tourner avec Olivier Wanhofstadt un film qui est sorti d'ailleurs. Qui s'appelle Lucky. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup la folie belge. Vous êtes un petit pays, mais vous êtes une grande nation. Et le fait d'être un petit pays fait que vous avez beaucoup d'humilité, beaucoup de bienveillance, beaucoup plus en tout cas que les Français, qui ont un humour plus corrosif, plus... Vous diriez sans doute plus prétentieux, plus acerbe. Et moi, j'aime cette espèce de désespérance positive, cette espèce de folie douce qui est belge. Si vous voulez... je me sens à l'aise avec vous, je me sens bien en Belgique, parce que justement, je crois qu'on partage ensemble cette même absurdité parfois de la vie, et à la fois cette espèce de folie qui nous permet d'en sortir en douceur.
Bien dit ça.
Je connais bien mes amis d'Outre-Quièvre.
Alors, parlons du casting. Audrey Fleurot, ben, vous l'aviez connue sur le fantôme de Canterville,
ouais.
ou déjà
Je l'ai connue sur le fantôme de Canterville, Audrey. Donc, c'est depuis devenu une amie. François Xavier, je l'avais rencontré au Festival de l'Alpe d'Huez, et depuis, c'était devenu un ami. Il y a beaucoup de copains dans le film. Claudia Tagbo, c'est une amie. Je ne parle même pas de Vincent Dozania, que je connais depuis une vie.
Voilà.
De Cartman.
Ans, quand même, ouais.
De Cartman aussi, que je connais beaucoup. C'est très agréable de bosser avec ses potes. C'est rassurant. Vous savez, le réalisateur décide de tout. On a l'impression qu'il est omnipotent et qu'il dirige une équipe d'une centaine de personnes avec beaucoup d'autorité. Mais à l'intérieur, il est extrêmement angoissé, extrêmement friable. Et c'est pour ça que c'est très agréable de bosser avec des potes, parce que ça vous rassure sur quelques acquis, quoi.
Alors, un des éléments clés, c'est la propriété.
Ouais. Très belle maison de François-Xavier de Maison.
Alors, expliquez-nous un petit peu, parce qu'on pourrait croire que ce sont plusieurs, une composite.
Quand on est tombé sur cette maison, au départ, on avait visité d'autres décors. Quand on est tombé sur cette maison qui était un petit peu, on va dire, au-dessus de nos moyens en termes de location pour le tournage, mais on a fait des efforts parce qu'elle était formidable. Il y a tellement de décors en un. Quoi. Il y a cette maison, il y a cette piscine, il y a son jardin, il y a son parc autour. C'est une maison qui vient d'être vendue pour 18 millions d'euros, voilà, qui se trouve au Pradet à côté de Toulon, et qui s'appelle la Villa Rocabella, et qui est une magnifique villa belle époque. Je ne saurais pas vous dire combien il y avait de chambres dedans. En tout cas, moi, je m'étais proposé à l'époque, quand ils nous demandaient, ce serait bien qu'on réduise un petit peu certains autres postes pour pouvoir se payer cette maison. Je dis, mais vous savez quoi, vous n'avez qu'à nous loger dans la maison, et comme ça vous économisez l'hôtel. Et le propriétaire de la maison nous a dit, non, ça va pas être possible. Non, ici vous venez pour tourner et le soir vous partez, vous ne dormez pas ici, ça n'est pas un lupanar.
Alors, la musique. Quatre chansons de Cool and the Gang, Johanna, Cherish, Ladies Night et Celebration. Vous êtes un fan à ce point-là ?
La musique est très importante dans ma vie. Je crois que quand on regarde mon parcours, on s'en rend vite compte, que ce soit moi qui la fabrique ou c'est vrai que je suis un grand fan de musique. J'ai été fan de Earth, Wind and Fire, de Cool and the Gang, de Michael Jackson, c'est toute mon enfance, le funk. Voilà, c'est les années 80, c'est la découverte du Walkman, c'est les premières soirées, les premiers émois. Donc, j'avais besoin d'un groupe ou d'un musicien qui puisse, qui soit abordable en plus quand même, faut en parler, qui puisse unir mes deux protagonistes, hommes et femmes, puisqu'ils se retrouvent sur. C'est pas vrai, toi aussi, t'es fan de Cool and the Gang. Et donc, oui, c'est vrai, moi j'étais fan de Cool and the Gang. Ouais.
Au générique, on trouve un dresseur de lémurien. C'est pas courant quand même. Vous êtes venu cette idée sur
vous. Non, c'était pas simple. D'ailleurs, cet amoureux, c'est puisque c'était un couple, ces amoureux des animaux m'ont beaucoup découragé de travailler avec un lémurien. Ils m'ont dit, les lémuriens, c'est pas simple, c'est un tout petit cerveau, ça n'a aucune mémoire, c'est extrêmement craintif, c'est extrêmement sauvage. T'es sûr que tu veux pas travailler avec un capucin? J'ai dit non. T'es sûr que tu veux pas travailler avec un chimpanzé? J'ai dit non. Tout ça, je l'ai déjà vu dans un film. On n'a jamais, en revanche, vu un lémurien. Lémurien agressif, bipolaire, parce que lui aussi vient de se faire larguer. Bon, ça c'est des petits détails qu'on a coupés ensuite au montage, mais voilà, je voulais avoir un animal qui ait la douceur et la gentillesse incarnée, qui soit super agressif avec notre protagoniste. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que ça me fait rire. Ça me fait rire et c'est déjà largement suffisant.
Et alors, vous êtes fan de voitures de luxe aussi?
Je suis un garçon, j'aime bien les grosses voitures, mais j'aime bien les voitures qui font du bruit, les voitures de sport, et alors là, je les malmène. Dans un premier temps, il y a une belle voiture de rallye dans le film, mais dans un deuxième temps, il y a une Ferrari de collection, une Ferrari 250 GTO, qui va malheureusement beaucoup, beaucoup souffrir dans le film. Alors, je préfère rassurer tous les amis, tous les ferraristes, et je sais qu'il y en a beaucoup en Belgique, des amis de l'Italie et des voitures rouges. Rassurez-vous, c'était une imitation.
Ah oui. Ah donc bah. Vous n'en avez pas cassé quelques-uns. Donc Ferrari ne vous en a pas donné.
Non, parce qu'une voiture comme ça coûte dans les 30 millions d'euros, donc vous pensez bien qu'on n'a pas les moyens de l'abîmer. Un rétroviseur coûte le prix du film.
Et finalement, on vous dit stressé. Est-ce que vous l'êtes
Stressé, non. Angoissé, oui. Angoissé par est-ce que je vais réussir à faire tout ce que j'avais prévu de faire ? Est-ce que je vais bien accomplir mon travail ? Est-ce que oui, c'est ça. Oui, tous les réalisateurs sont des angoissés. Alors il y en a qui le sont très très intérieurement et qui ont on a l'impression qu'ils sont calmes comme ça, mais les réalisateurs sont toujours en train de se gratter la tête, ils sont toujours en train de chercher, ils sont toujours en train de regarder leur monde pour savoir s'ils vont avoir le temps de faire cette scène. Et quand je me compare absolument pas à Woody Allen ou à Scorsese, mais quand vous voyez Scorsese sur un plateau, certes il est calme parce qu'il a 27 films à son actif
et quelques
assistants et une carrière immense ici, mais c'est pareil pour Spielberg, mais on est toujours en réflexion parce que quelque part on est dépendant de ce que font les autres. En fait, on a une histoire, on a un savoir qu'on communique à une équipe technique et à des acteurs, et après c'est eux qui la fabriquent. Donc on est toujours en train de mettre les choses en perspective pour savoir si oui ou non c'est exactement ça ce qu'on leur avait demandé.
En janvier, vous étiez à l'Alpe d'Huez, on parlait de tout à l'heure. Grand Prix, prix de la presse, c'est bon augure quand même hein, pour le 15 juillet.
C'est très bon augure. Maintenant, pour faire la triple crown, la triple couronne, il nous faut, maintenant qu'on a eu le jury et qu'on a eu la presse, il nous faut le public. Le public, et c'est la plus belle des récompenses. Évidemment, c'est un pari de sortir le 14 juillet, si près de la réouverture des salles et du déconfinement. Mais il faut bien qu'à un moment, il y ait des bons films, des belles comédies qui sont là pour faire rire, qui motivent les gens à retourner en salle et on est cette locomotive, on est fiers de l'être et on est fiers aussi de défendre les salles dans des périodes aussi tordues, aussi complexes que personne n'a jamais vécu. C'est-à-dire autant, moi je me souviens, mes parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et ils ont vécu aussi, parce que mon père est pied noir, la guerre d'Algérie, etc. Les guerres, il y a toujours quelqu'un qui va vous raconter ses parents lui parlaient de la guerre de 14, etc. En l'occurrence, une pandémie, personne n'en a jamais vécu.
Et le cinéma fonctionne.
À part ceux qui ont vécu la peste noire, mais malheureusement, je crois qu'il en reste pas. Donc, voilà, c'est une période assez inédite et on est très fiers d'être une locomotive et de prendre ce pari de allez les gars, venez, on retourne au cinéma, on va se marrer.
Mikaïo, un grand merci. Donc, merci, on rappelle, Divorce Club, 15 juillet en Belgique. Merci.
Et on vous aime.